Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, nous poursuivons notre réflexion sur le présent des archives, ce qu'on en fait, ce qu'elles nous font, qui va nous occuper toute la semaine dans Matière à penser. Sont-ce des matières, d'ailleurs, les archives, des matières premières du travail des historiens? On s'est interrogé hier avec Yann Potin sur l'histoire de la mise en archives et nous allons parler aujourd'hui de la mise en histoire des archives avec une praticienne des archives, Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, une défricheuse, une découvreuse, une bouffeuse d'archives même, on va parler de tout ça. Bonsoir Anne Simonin.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Oui, les archives, c'est vraiment, si on voulait définir votre métier, d'emblée ça a été ça?
D'emblée ça a été ça, oui et non, parce que j'ai eu une chance formidable, parce que d'emblée j'ai eu accès à un fonds d'archives privé, qui était le fonds des éditions de Minuit.
Vous avez commencé à travailler sur un catalogue en fait.
Sur un catalogue et sur une maison d'édition, au moment où l'histoire de l'édition commençait à se constituer. Alors je sais que c'est passé un peu comme une météorite, parce que maintenant on continue d'en faire, mais moins qu'à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, avec sous la houlette de Roger Chartier et de Jean-Yves Mollier. Et c'est vrai que c'était un peu, si vous voulez, comme le bar d'assurance tout risque dans le chaudron d'Obélix. Parce que là, je pouvais avoir accès à ce fonds d'archives. Donc j'ai eu une position très très privilégiée quand j'ai commencé à faire de la recherche. Et finalement, c'est quand j'ai travaillé sur l'indignité nationale, peut-être un peu avant, que j'ai véritablement découvert les archives nationales, qui sont devenues, je sais pas, quelque chose comme mon doigt, quoi. Je peux pas imaginer commencer un travail sans me dire quel fonds d'archives je vais pouvoir ou pas utiliser.
Ah, on va parler de tout ça, mais donc vous êtes au départ, on va dire, vous faites de l'histoire culturelle, l'histoire de l'édition. Vous avez en 2012 chez Minuit publié Anne Simonin, Le droit de désobéissance, les éditions de Minuit en guerre d'Algérie. Et puis vous devenez aussi, avec au fond cette pente des archives nationales, on va y revenir beaucoup évidemment sur la question de l'indignité nationale. Vous devenez une historienne de la citoyenneté, de la citoyenneté en République. On pourrait dire, peut-être pour vous présenter, Anne Simonin, une historienne des rapports entre morale et politique.
Ah, ça, ce serait gentil, même si le mot moral, enfin, la morale est toujours quelque chose qui est un mot qui me gêne un peu, parce que, mais peut-être que voilà, je suis quelqu'un qui peut être immoral parce que c'est des gens transgressifs qui m'intéressent et les indignes sont des gens transgressifs, surtout quand ils sont placés sous le patronage de Sade, qui est quand même le grand-père d'une certaine façon de l'indignité, puisqu'il a été frappé d'indignité lui sous tous les régimes. Oui. Donc c'était pas compliqué. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre de l'indignité, il y avait ça.
C'était lui.
Voilà. Donc qu'il a tellement fait il a tellement retourné le stigmate d'une certaine façon, que je me suis toujours demandé pourquoi Michel Foucault, dans ce texte absolument séminal qu'est La vie des hommes infâmes, donc qui paraît en 78, qui est le moment où Foucault va faire à la fois de la philosophie et de la littérature à partir d'une source, des registres d'emprisonnement, des registres de fous, de Bicêtre, et dont il va extraire des petites histoires, des brèves qui vont raconter des vies absolument, des vies minuscules avant l'heure. Préface, c'est une préface pour la collection Le Chemin, que dirige Georges Landrix, donc c'est un texte littéraire. Et la comparaison, l'ancrage littéraire que choisit Foucault, c'est pas Sade, mais c'est Céline. Et je dois dire que, voilà, moi j'ai deux passions, c'est-à-dire les deux seuls écrivains qui font que je peux me dire, quand je termine un papier, il va encore falloir que j'aille à Beaubourg avant que ça ferme pour vérifier une référence, c'est définitivement Sade et Céline.
Alors on va parler de Sade et on va aussi parler de Céline, parce que vous avez dans le dernier numéro, enfin dans le numéro de novembre de l'année dernière du magazine L'Histoire, fait un grand papier sur le cas Céline, mais toujours dans l'effet de souffle de ce livre, Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité, 1791-1958, on devrait même plutôt dire, paru chez Grasset en, je ne sais plus quelle année.
2008.
2008. On pourrait presque dire 1958-1791, parce qu'au fond, vous partez de la question de l'invention de ce crime, le crime d'indignité nationale et la peine de la dégradation, c'est pas tout à fait la même chose, et vous allez chercher ben justement la préhistoire, enfin en tout cas, sinon l'origine, du moins le point à partir duquel il y a reprise, c'est votre mot.
Voilà, c'est un concept d'abord que je dois à Rob Grier, parce que je pense que les...
Ah oui,
les,
vous êtes vraiment une historienne de la littérature.
Les écrivains pensent, et pas que la littérature, et il y a un livre de Rob Grier qui s'appelle La Reprise, et c'est Rob Grier dans un article du magazine littéraire. Parce que moi je fais partie de ces gens qui ne hiérarchisent pas les sources, c'est-à-dire je pense qu'on trouve des idées partout, et qui expliquait très justement pourquoi cette notion de reprise qu'il emprunte à Kierkegaard était quelque chose d'aussi essentiel pour lui. Parce que la reprise, c'est à la fois le même et le nouveau. Et c'est cette façon, dans l'histoire, il n'y a pas de répétition à proprement parler dans l'histoire, mais il y a effectivement des moments de reprise qui, pour moi, sont absolument liés à la contemporanéité de la Révolution française. Et ce qui m'a toujours apparu, c'est-à-dire que la grandeur de la libération et de ce que sera le gouvernement provisoire du général de Gaulle, c'est le moment où, et puis la France combattante et la France libre avant, où véritablement les idées de la Révolution française, certains des principes de la Révolution, vont se trouver repris. Et repris et amendé, et l'indignité qui naît d'une certaine façon, qui est un concept emprunté au droit des successions, donc qui a une très longue histoire dans le droit civil, va être importée dans le droit pénal de la Révolution par des gens comme Marat, et va être véritablement codifiée par les juristes de la Résistance. Et c'est cette sorte d'histoire fraternelle et de comparaison des périodes qui m'intéresse, sachant que je connais, je vais pas dire le mépris, mais la relative méfiance qu'il peut y avoir par rapport à l'histoire contemporaine, considérée comme l'histoire la moins conceptuelle de toutes les périodes historiques. Et ça, c'est vrai que ça m'exaspère un peu, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre histoire que de l'histoire contemporaine. Et qu'il y a effectivement peut-être une façon qui a été un peu paresseuse de la part des Français d'avoir coupé l'histoire en tranches, alors que il n'y a pas plus contemporain que, évidemment, les questions que l'on pose aux périodes antérieures, et que on n'a peut-être pas suffisamment prêté attention au fait dans le manifeste pour l'histoire qui a fait beaucoup de bruit, qu'il y avait deux types de comparaisons possibles. Une comparaison transnationale, mais aussi des comparaisons interpériodes sur un temps long dans des histoires nationales. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel pour les études révolutionnaires.
Alors on va en parler de tout ça, c'est la grande question, effectivement la question de l'indignité. Céline, nous allons peut-être dans la deuxième partie de cette émission en venir à ce grand thème de votre recherche, Anne Simonin. Mais restons encore pour l'instant, si vous le voulez bien, dans votre travail, le travail de l'historienne. Essayons de le rendre sensible aux auditeurs. Vous allez chercher les archives quoi ? Une matière première, comme je disais tout à l'heure, une source d'inspiration.
Oui, et une façon et une sorte de défi. C'est-à-dire une façon de rompre des certitudes. C'est-à-dire que les archives, ça n'est jamais, et les trouvailles d'archives pour moi, c'est toujours des choses qui déplacent. C'est qu'on arrive avec des hypothèses qui sont plus ou moins floues par rapport à un sujet, qu'on dispose maintenant quand même de cet instrument de travail qui est extraordinaire, qui est la salle des inventaires virtuels des archives nationales, qui fait que quand les archives se sont installées à Pierrefitte, sur Seine, il y a eu tout un travail de recollement et en réalité pour moi de refondation des archives à l'ère du numérique. Et je pense qu'on a probablement le meilleur instrument au monde. Et je ne dis pas ça parce que par souci nationaliste imbécile, mais parce que c'est un formidable instrument de travail qui a permis en quelque sorte de rendre vivants des fonds auxquels on n'aurait pas pensé en faisant des recherches par mots. Et c'est un logiciel qui a été conçu par les Français pour les archives nationales. Et donc on est exactement comme un moissonneur quand il engrange sa première récolte, absolument épatée. Quand on cherche quelqu'un sur qui on n'a pas beaucoup, a priori, de traces, on n'a pas beaucoup d'éléments, de se dire, surtout quand on mobilise les archives notariales, qu'on voit parfois surgir l'individu en question. Alors, il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire de références qui sont pas utiles, mais il y a ce premier moment, mais qui est presque un plaisir de gosse, qui lancerait un caillou dans l'eau et qui verrait les cercles. Et voilà, et ça ouvre l'appétit. Voilà. Et donc après.
Et ça, vous avez envie de le dire.
Ah,
vous avez
absolument.
Envie de le dire parce que d'une certaine manière, on en parlait déjà hier avec Yann Potin, les historiens ont un rapport utilitaire aux archives et ils oublient parfois de défendre non seulement le métier d'archiviste, mais l'idée même qu'il puisse y avoir des archives.
Alors, c'est difficile d'avoir qu'un rapport utilitaire aux archives parce qu'on a tous lu Le goût de l'archive de d'Arlette Farge. Enfin, ça fait partie quand même des.
Notre guide de survie.
Voilà, notre guide de survie. Et puis, du moment où je pense qu'on a. Enfin, moi, je peux pas rentrer à l'Arsenal sans avoir effectivement une sorte de je sais pas de dans ma besace ou dans ma tête.
C'est quoi l'Arsenal d'ailleurs,
C'est la bibliothèque qui est alors la bibliothèque c'est quand même une bibliothèque extraordinaire l'Arsenal. C'est peut-être la bibliothèque qui conjugue le mieux les deux fonctions de bibliothèque et d'archives
à Paris
qui sont aujourd'hui très dissociés. Même si vous avez, évidemment, il y a des collections d'archives à la Bibliothèque nationale, mais ce qu'il y a de génial à l'Arsenal, c'est que sur la même table, vous avez des livres que vous pouvez aller chercher dans le fond, et puis des fonds d'archives. Et que tout le monde vous permet de mêler les deux. Et ça, pour moi, c'est une espèce de cordon ombilical qui rattache les archives à la vie. Quand vous êtes en plus en 18e, parce que quand on travaille à l'Arsenal, les fonds sont, en tout cas pour moi, sont des fonds du 18e, et que, à cause de la proximité de la garde nationale, de la garde républicaine, pardon, ça c'est un lapsus joli, de la garde républicaine, les chevaux hennissent, et que parfois, ils sortent, et donc on entend sur le bruit des pavés, le bruit des chevaux, moi je vous promets que vous me diriez, il y a Robespierre qui vient de rentrer dans la salle, je trouverais ça super normal. Et donc, il y a, voilà, avec rien, hein, ça coûte pas cher. Voilà, c'est juste une carte et c'est une sorte d'équilibre qui est absolument rare et qui me paraît devoir être absolument préservé parce que cette double fonction bibliothèque-archive, il me semble que l'Arsenal est la bibliothèque qui la remplit le plus parfaitement possible à Paris.
Et puis, il y a aussi vous dites double fonction, il y a aussi la double matérialité, le double corps de l'archive, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes très sensible, Anne Simonin, à la matérialité du document. En même temps, vous avez copiloté une ANR, c'est-à-dire un programme de recherche sur la numérisation des 10 000 décrets de la collection Baudouin, c'est-à-dire des lois en révolution de 1789 à 1795. On peut faire les deux quand on est historienne ou historien aujourd'hui, c'est-à-dire numériser des fonds, mais ne pas, au fond, disperser l'archive dans la donnée, c'est-à-dire être toujours au plus près du document, c'est ça ?
Oui, mais parce que d'abord, Baudouin, moi, ça commence sur une collection papier, parce que j'avais la chance de pouvoir travailler à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, et c'est comme ça que je tombe sur la collection Baudouin en étant absolument époustouflé.
Donc Baudouin, c'est un imprimeur ?
Baudouin, c'est l'imprimeur officiel des décrets, on dirait aujourd'hui des lois de l'Assemblée, des assemblées révolutionnaires, de 1789 à 1799.
C'est lui qui a tout imprimé, en fait, hein, imprimé tous les décrets.
Il est censé avoir tout imprimé. Oui. Alors déjà, ça commence. Mais il y a surtout une deuxième ANR qui va faire la période 80-95-99, mais celle...
ANR, ça veut dire Agence Nationale de la Recherche, qui programme des grands chantiers collectifs.
Qui donne de l'argent pour qu'on puisse faire certaines numérisations. Et cette collection Baudouin, qui est une collection absolument séminale, mais que toute personne travaillant sur l'histoire du droit, en particulier de la Révolution, ne peut pas ne pas connaître. On l'a numérisé avec Hartfeld Chicago, c'est-à-dire Robert Morisset et Marc Olsen. Et dans un souci, et je crois que maintenant il y a eu plus de 300 000 consultations, alors que c'était une collection qui était effectivement, parce qu'elle est extrêmement rare, Baudouin étant un imprimeur d'un genre très particulier, c'est-à-dire qui est tout le temps en retard, mais c'est normal, comment ne pas être en retard alors que l'Assemblée est toujours en avance sur son temps. Et donc il y a toujours un problème de livraison des collections, et c'est donc devenu une collection qui effectivement est extrêmement rare, et qu'on peut consulter sur Internet. Et c'est vrai que la façon de jouer à la fois sur le mode image, parce que on m'avait laissé comme une sorte de bizarrerie féminine, Marc Olsen m'avait dit, bon, tu veux des images, tu auras des images. Tu veux de la couleur, tu auras de la couleur. Très bien, moi j'étais très contente, parce que normalement c'était noir et blanc. Et en fait, c'est une... maintenant c'est devenu, ça s'est généralisé. Baudouin a terminé en 2013, donc on avait commencé 4 ans plus tôt. Et il y avait, voilà, moi je retrouvais la page, je retrouvais virtuel, en tout cas sur Internet, je retrouvais la collection, parce que on a tous les volumes. Et mon utilisation de Baudouin, elle est absolument, elle est un peu débile en réalité, c'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à ouvrir un volume et à le feuilleter, puisque maintenant on a des logiciels qui permettent ça, et retrouver le feuilletage, même virtuel, de l'archive, pour moi c'est un truc absolument essentiel, ce que ne permettait pas le microfilm.
Et là on est très proche de ce dont on parlait avec Carlo Ginzburg avant-hier, c'est-à-dire au fond de l'exceptionnel normal, de ces découvertes d'archives. On va essayer de piocher comme ça dans votre bibliographie, Anne Simonin. Tiens, par exemple, la collaboration. Bon, on va en reparler. La collaboration a un sexe. On dit que, au fond, elle subit l'attrait puissant de l'occupant mâle. Mais on n'imaginait pas qu'il y ait des collaboratrices par engagement politique. Or, bah, vous allez aux archives et paf, vous en trouvez. Et vous en trouvez beaucoup.
Oui, parce que je pense que la période de l'occupation, dans l'histoire des femmes, ça a toujours été, on a ramené les femmes à des collaboratrices horizontales. Voilà, c'est-à-dire c'est une façon polie de dire qu'elles avaient eu des relations avec les Allemands. Savoir si c'était des relations sexuelles, ça je demande encore à voir. Mais moi, ce qui m'a totalement intriguée, c'était parce que j'ai lu, quand j'ai travaillé sur l'indignité nationale, je constitue une base de données de plus de 8000 arrêts de jugement. Donc c'est un peu long, c'est très ennuyeux, surtout quand vous les ressaisissez 4 fois pour des raisons sur lesquelles je n'entrerai pas, mais qui tiennent à mes incapacités. Et là, si vous voulez, quand vous avez des histoires, et le seul homme qui ait bien parlé des collaboratrices, justement, très bizarrement, pour moi, c'est Marcel Aimé dans Le Chemin des Écoliers. Mmh. Marcel Aimé met en note en bas de page, dans Le Chemin des Écoliers, une histoire que j'ai vue, qui est une histoire, donc... je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est vraisemblable. D'une femme qui est sanctionnée pour ses relations sexuelles avec les Allemands, là pour le coup on le sait, et qui va se rebeller, et en revendiquant le plaisir qu'elle a pris dans cette relation. Et ça, déjà, la façon dont Marcel Aimé traitait ça me paraissait très étonnant. Et puis, moi, je suis tombée sur des femmes qui disaient au juge, bon, écoutez, le juge leur disait, écoutez, vous êtes rentrée dans la milice en juin 43, c'est quand même pas normal. Et elles disaient, ah, mais monsieur le juge, excusez-moi, mais pour moi, la milice, c'était une association caritative. Et parce qu'elles passaient pour des débiles mentales, elles étaient acquittées. Mmh. Le même homme faisant une entrée dans la milice en juin 43, je peux vous assurer, c'était un minimum de 10 ans ou de 15 ans d'indignité nationale. Et là, si vous voulez, je me suis dit, bon, pas mal joué. Pas mal joué, et donc il y a quelque chose d'un peu plus sérieux que ça, et un rapport aux politiques qui est inventé par les femmes. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas responsables de partis politiques, mais elles investissent toutes les fonctions sociales dans les mouvements politiques de la collaboration, et donner du pain pendant la guerre, ou redistribuer les biens qui ont été confisqués sur les Juifs, eh bien ce sont des actes politiques.
Ça, c'est un article dans la revue en ligne Histoire @politique en 2009. Et donc, vous trouvez dans les archives des miliciennes jeunes, diplômées, cultivées, engagées très très loin, effectivement, de notre image de la femme tondue. Oui. Autre exemple. Un jour, vous avez trouvé un éléphant.
Ah oui, mais ça, c'est parce que j'étais dans les archives de la BBC.
Oui, mais ça nous intéresse ici.
Et voilà, dans les archives de la BBC. Et je tombe sur les émissions concernant Babar. Et Babar en éléphant français libre.
Et je pense... Donc on parle des émissions de la BBC.
Ouais, pour la jeunesse.
Pour la jeunesse française.
Pendant la guerre.
Et entre 41 et 45.
Voilà. Et je pense faire un article, mais en anglais, qui se serait appelé The Free French Elephant. Et je trouvais que ça sonnait bien. Voilà, ça me plaisait. Et puis il faut quand même pas, parce que Babar, c'est juste un sujet magique, quoi. Et donc je commence à lire des textes et en essayant de comprendre comment ces textes racontent aux enfants une histoire politique immédiate. Parce qu'il est très politique, le Babar de la BBC. Et puis, avec une autre de mes passions qui est Romain Gary, et en lisant Les Racines du Ciel, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que l'éléphant ressorte.
Il y a beaucoup d'éléphants dans Les Racines du Ciel.
Il y a beaucoup d'éléphants. Et alors, qu'on a toujours toujours lu ce très grand livre de Romain Gary, qu'on l'a toujours lu comme étant l'annonciateur de l'écologie. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est Babar qui m'intéresse. Et donc, je m'amuse à coupler les deux. Et je trouve un indice où Jacques Brenner, en commentant Les Racines du Ciel, fait allusion à Babar. Ça, c'est dans une revue de presse chez Gallimard. Et quand vous êtes dans une interprétation un peu échevelée et que vous avez juste un indice comme ça, je pense que c'est des moments de joie tellement profonds où je me dis, je peux y aller.
Voilà. Donc, les origines babaresques de Romain Gary.
Ouais, voilà. Sous Les Racines du Ciel, Babar. Pas que Babar, mais aussi Babar. Et quand j'ai fait cet article que j'avais demandé à Roger Grenier de transmettre à Diego Gary, au fils de Romain Gary, Roger Grenier m'avait dit, là, vous poussez quand même un peu. Voir Babar dans Les Racines du Ciel, c'est un peu, voilà, c'est un peu too much. Et quand j'ai reçu un mail de Diego Gary me disant, Babar, c'était la seule bande dessinée, bande dessinée que me lisait mon père. Bah là encore, j'étais vraiment contente.
France Culture, Matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Anne Simonin qui nous parlait de Babar, un éléphant français et libre qui avait la croix de Lorraine brodée sur son magnifique maillot de bain qu'il mettait pour nager dans la Tamise. Le 18 août 1942, c'était une des archives de la BBC sur laquelle vous aviez travaillé. Pourquoi vous nous avez fait écouter cette...
Alors, pourquoi Handel et pourquoi les Water Music? Parce que c'est d'abord un morceau que j'aime beaucoup, c'est un hommage au corps français, et dans cette époque de Brexit, qui est quelque chose qui me... Je peux pas encaisser ça. Je peux pas encaisser...
Vous avez dirigé la Maison française d'Oxford.
Oui, et un de mes
amis...
Vous
êtes une des militantes du dialogue historiographique franco-anglais.
Oui, parce que je pense qu'il est insuffisamment valorisé par rapport au dialogue américain. J'ai dirigé la Maison française dans une période qui était difficile. C'était peut-être pas la période la plus glorieuse de son histoire. Mais comme disait un de mes amis, t'avais tout imaginé sauf qu'on allait te piquer l'Angleterre. Et c'est vrai que le référendum et la façon, le résultat du référendum que j'ai vécu là pour le coup en direct a été pour moi quelque chose de, enfin voilà, je crois que j'ai physiquement compris ce que c'était d'une certaine façon qu'une défaite, c'est-à-dire le moment où vous dites non, d'abord c'est un cauchemar, c'est pas possible et on va pouvoir revenir en arrière. Et et simplement vous êtes englué dans quelque chose qui fait que vous reviendrez pas en arrière. Alors là, j'ai juste envie de dire, voilà, avec Handel, il aimait le corps français. Quand c'est des pièces qu'il a composées pour le roi Georges Ier, quand il se promenait sur la Tamise aussi, que Georges Ier a tellement aimé qu'il l'a fait jouer 3 fois, je crois. Alors on arrête, voilà. J'aurais envie de dire à Michel Barnier, à Theresa May, bon maintenant c'est bon, ça va, on arrête et on revient. Et on revient à ce qu'a été cette arche d'alliance absolument fondamental entre la France du général de Gaulle et l'Angleterre de Winston Churchill, et qui a sauvé vraiment la France du désastre.
Alors parlons de ça justement, Anne Simonin, parlons justement d'une reprise. Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité, 1791-1958, un grand, un impressionnant livre que vous avez publié chez Grasset en 2008. Au départ, c'est 95 000 peines d'indignité nationale, peines de dégradation civique, en réalité, pour un nouveau crime. Et vous faites l'histoire de l'invention de ce nouveau crime qui sauve, là aussi, d'une certaine manière, la France d'après-guerre, d'une épuration qui aurait pu être beaucoup plus sanglante, en inventant donc ce crime. C'est pas tous les jours qu'on invente un crime, de la mort civique.
Oui, c'est un crime qui a été l'indignité nationale, qui est une innovation des juristes de la résistance, des juristes de France, qui étaient restés en France. Et je pense que l'indignité nationale a toujours été un crime incroyablement détesté, parce que c'était un crime rétroactif, ce qui est une objection qui ne tient pas tellement en droit pénal, puisqu'il valait mieux l'indignité nationale a priori que la peine de mort et que l'exécution par fusillade à la Libération. Mais c'est un crime qui a profondément clivé la résistance, sachant que les juristes de Londres y étaient totalement opposés et que les juristes de la résistance l'ont absolument défendu. Et là encore, c'est toujours des surprises. Un des grands défenseurs de l'indignité nationale, c'est Julio de la Morandière, qui avait fait sa thèse sur la rétroactivité en droit pénal. Et ça, c'est des choses que je trouve jubilatoires. C'est-à-dire qu'il avait fait une thèse dans une carrière, et Julio de la Morandière est un grand civiliste. Dans une carrière de juriste à l'époque, la thèse en droit pénal était toujours une thèse considérée comme mineure, puisque le droit pénal, pour certains juristes, c'est à peine du droit. On va être poli, puisque c'est trop politique. Alors que c'est évidemment faux, par rapport à ce que, en tout cas, à ce qui moi m'intéresse dans l'histoire. Et de voir quand même comment, quand vous avez travaillé sur un sujet il y a très longtemps, que les circonstances historiques vous mettent en face d'un choix qui est: est-ce que je valide ou pas la rétroactivité de l'indignité nationale? Moi, je trouve que c'est magnifique en termes de cohérence, et que Julio de la Morandière ait mis toute sa puissance sociale et intellectuelle pour dire oui, ceci est une bonne idée. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important, l'indignité nationale. Mal appliquée, oui.
Mal assez rapidement compris, amnistié.
Assez rapidement amnistié, oui, dès 1947. En réalité, dès 1946, il commence à amnistier les jeunes. Après, en 1947, les anciens combattants, d'où l'affaire Staline. Puis 1951, puis 1953. Mais c'est un crime qui a toujours été mal aimé. Et ce qu'il y a pour moi de très étonnant, c'est que c'est un crime qui revient de plus en plus sur le devant de la scène, et qui, à partir de 2015, quand il y a eu l'idée, qui n'était pas une bonne idée, d'instaurer une déchéance de nationalité, le crime d'indignité nationale est remonté à la surface de la mémoire nationale.
Et d'ailleurs, les journalistes sont venus vous chercher. Ça aussi, c'est une forme de reprise. C'est-à-dire, tiens, il y a un précédent historique d'une certaine manière, qui a à voir avec la question de la dignité, la question de l'honneur de la République, et puis on vient vous chercher.
Oui, mais ça c'est pas moi qui était important en l'occurrence, c'était de dire tout d'un coup que ce crime qui avait été mais vraiment vilipendé par tout le monde, dont on disait qu'il avait servi à rien, que c'était mal fait, que les textes n'étaient pas bons, tout ça c'est vrai, toutes ces critiques-là, devenaient la possibilité d'adapter, de donner une réponse politique à un état d'agression profond de la conscience nationale. Et ça, je trouve que c'était une formidable revanche pour l'indignité nationale. C'est-à-dire de dire, il y a effectivement des moments où, si vous voulez mettre l'histoire à hauteur des circonstances, vous êtes obligé d'inventer. Et ce que je trouve extraordinaire, et pas du tout critiquable, ou critiquable, mais néanmoins extraordinaire, c'est quand le droit se met à hauteur d'histoire et répond, oui, pour cette situation historique inédite, qui est quand même le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire des Françaises et des Français se mettant volontairement au service de l'ennemi nazi. Eh bien, cette situation, elle est tellement inconcevable, elle a été tellement inconçue dans l'histoire de la République, que pour la sanctionner, il faut un crime nouveau.
Un crime nouveau, mais qui reprend d'une certaine manière, et c'est ça toute la force du livre, cette histoire d'une reprise, ça ne fait pas le lien entre la terreur et la libération.
Absolument.
Ça fait un pont.
Oui.
Il y a un pont, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la situation où la République a posé la question de la dignité et de l'indignité.
Absolument.
Et on retrouve Marat, et on retrouve Sade, enfin on retrouve au fond, ben voilà, tout.
Mais et avec là-dessus, vous avez raison. Plutôt un pont qu'un lien, parce que la République a appris. Et si vous voulez, c'est comme quand vous avez des gens qui ont une ADN républicaine. Eh bien, il y a des choses qui sont presque des impensées. C'est-à-dire qu'on se dit, là, on peut y aller, parce qu'effectivement, la situation historique à post-Vichy, elle est inconcevable. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on voit comment ils vont s'inspirer de choses, et on retrouve ça dans les archives, en particulier de Michel Debré. Hein. Quand Michel Debré invente les commissaires de la République, il a en tête, évidemment, les représentants de la Convention. Mais moi, c'est pas moi qui, je vous dis pas, il a en tête.
C'est pas une interprétation.
Non, il y a des notes où il y a quelqu'un qui écrit et donc c'est le moment où vous allez chercher, vous allez puiser dans la Révolution à la fois l'énergie, l'audace et certaines idées. Et ça, moi, ça m'épate.
Mais vous, comme historienne, ça vous permet aussi de mieux comprendre la Révolution juridiquement comme, c'est ce que vous écrivez, un état d'exception. Qui est fictif au fond, une sorte d'état de siège fictif, qui d'une certaine manière permet justement de lancer ce pont en droit et en histoire.
Oui, parce qu'on retrouve le même état de siège dans un cadre juridique dans le cadre de la libération de la France. Et ça fait partie des solutions qui sont pensées par le droit civil au sens large du terme, à partir du droit militaire. Et parce que c'est des situations intermédiaires entre guerre et paix. Et tout ce que charrie l'indignité nationale de profondément républicain et sur la longue durée, et que ce soit des gens, parce que moi j'ai eu la chance parce que je suis une vieille dame de rencontrer des gens qui avaient travaillé sur l'indignité nationale, et il faut bien voir comment ces hommes ont travaillé quand ils étaient à Londres et quand ils reprenaient les textes. Ils avaient pas de code, et en fait ils allaient les voler à la British Library. Vous savez, quand un conseiller d'État vous dit on a volé des codes à la British Library, ils avaient un seul exemplaire du journal officiel. Et pour des juristes, faire des textes ou corriger des textes dans des circonstances comme celle-là, c'est inouï. Alors évidemment que les textes sont pas bons, très honnêtement, et qu'ils sont très difficiles à interpréter. Mais dans toutes ces contraintes, qui sont presque des contraintes oulipiennes, il va quand même y avoir une jurisprudence, et on va éviter à la France le bain de sang. Et ce que disait très bien le doyen Carbonnier, il disait « il y a des mauvaises lois qui sont de bonnes lois ».
Est-ce que c'est le cas aussi du jugement de Pétain? Parce que comment aujourd'hui, évidemment, est revenu sur le devant du débat politique de manière un peu surprenante ou inopinée la question effectivement du rapport de mémoire à Pétain et donc de l'indignité nationale. Et vous, comment vous réagissez comme historienne de ce point de vue-là?
Moi, d'abord, ce qui me frappe, c'est que quand on parle du maréchal Pétain et de la commémoration du maréchal Pétain, le premier mot qui vient aux personnes ce que j'ai pu lire du CRIF ou de la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est le mot indignité. Ce qui quand même est très différent, puisque Pétain a aussi été condamné à mort. Et il se trouve que le raisonnement pourrait être le suivant, la grâce dont bénéficie le maréchal Pétain est sans effet sur le caractère infamant de l'indignité nationale. C'est-à-dire qu'il peut être condamné à la déportation à perpétuité, à l'emprisonnement à perpétuité, mais il est, de toute façon, il reste indigne, Pétain. Et ça, c'est quand même une chose. Et dans le cadre des lois d'amnistie, les condamnés de la Haute Cour ne sont pas amnistiés, même en 1953. Donc, quand vous rapprochez les pièces de ce puzzle-là, effectivement, Pétain reste frappé d'indignité. Peut-on encore aujourd'hui lui donner le titre de maréchal? Ça, c'est une chose qu'il faudrait peut-être un peu travailler, autrement que dans une visée polémique. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que essayer de faire du droit et de poser, c'est-à-dire de revenir, et ça a une vraie importance. Non pas que je n'aime pas la polémique, mais parce que j'aimerais tellement qu'on crédite les juristes de la Résistance d'avoir fait du droit. Et donc, dire, c'est à cause de l'autorité de la chose jugée, que vous ne pouvez pas commémorer quelqu'un qui a été frappé d'indignité nationale et qui n'a même pas bénéficié de l'amnistie, me paraît être une chose importante. Peut-être que avant de construire des listes de gens à commémorer, on pourrait éventuellement s'attacher à veiller à ce qu'il n'ait pas été frappé d'indignité nationale. Voilà, moi c'est la seule chose que je demande. Non pas, encore une fois, pour éviter les polémiques, mais juste pour que on réduise notre communauté à un minimum civique commun. Et tant que la guerre, ne pas considérer que l'indignité nationale doit être rappelée et considérer qu'elle fait obstacle à toute forme de commémoration, c'est considérer que la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu.
Alors justement, parlons de ça encore à partir de ce thème, nous l'avons annoncé, et ça revient au fond à votre spécialité d'historienne de la littérature, Anne Simonin. Céline a-t-il été bien jugée? C'est le titre d'un remarquable article de la revue L'Histoire dans son numéro de novembre 2018. Vous reprenez toutes les archives de cette affaire incroyable, puisque effectivement Céline est condamnée en 1950 par la Cour de justice de la Seine.
Par
contumace.
Jamais présenté devant ses juges.
Et un an plus tard, il est amnistié.
Oui, alors.
Et dans des conditions étranges, et là vous allez voir le document, et disons, il y a un loup.
Mais je vais voir un document que tout le monde a vu. C'est-à-dire que, et c'est là aussi où, alors d'abord, je vais voir le document, c'est-à-dire qu'il faut, pour voir le document, aller au blanc, là où sont conservées les archives militaires, c'est-à-dire près de Poitiers.
Parce qu'il a été jugé par des juges militaires.
Hein. Oui. Et en tout cas, il est amnistié parce que, à la fin de l'épuration, de ce qu'on appelle l'épuration, qu'on devrait appeler la répression des faits de collaboration, ce sont les tribunaux militaires qui vont terminer, en quelque sorte, les affaires, ce qui explique que Céline ait été condamnée définitivement par un tribunal militaire et ensuite amnistiée par un tribunal militaire. Et cette façon de le côté excentré géographiquement des archives militaires fait que la grande inconnue dans le cadre de la répression des faits de collaboration, ça reste toujours la justice militaire. Or, vous ne pouvez pas imaginer, à moins d'aller vous installer au blanc, et donc d'y rester vraiment très longtemps, de travailler ce qui est inévitable quand vous travaillez sur des archives judiciaires, c'est-à-dire la série. Et vous êtes obligé pour essayer de comprendre. Il faut jamais, enfin, le cas est a priori pas très intéressant. Alors quand je dis ça, je me tire une balle dans le pied, puisque moi je travaille là sur le cas Céline.
Qui est quand même aberrant, parce que là, quand même, il y a quelque chose qu'au départ on ne comprend pas, c'est que, voilà, Brasillac a été fusillé, Rebatet a été condamné à mort depuis gracié, et lui... il a une peine très légère d'un an de prison et puis
d'une indignité nationale. Alors c'est là
l'indignité nationale et on dit mais parce que le dossier était vide. Alors vous allez le voir et d'abord il est pas si vide que ça.
Non, bien sûr, le dossier il est incomplet, mais il est incomplet parce que Céline est contumace, c'est qu'à partir du moment où la France essaie d'obtenir il est réfugié au Danemark. Donc il se retrouve, c'est très compliqué pour les juges, mais de mon point de vue, si vous voulez, les juges ont fait avec, là encore, sous une contrainte extrêmement forte, ils ont vraiment incroyablement intelligemment jugé Céline, et Céline a bénéficié ensuite de cette soi-disant amnistie qui, pour moi, est un faux.
Donc vous démontrez dans cet article que c'est un faux.
Qui n'a pas été délibéré, qui est quelque chose qui est rajouté sur un document, mais d'une certaine façon, l'histoire et les juges sont des gens beaucoup plus malins qu'on ne l'imagine. Céline, jusqu'à la fin de sa vie, réclamera la grande amnistie. S'il avait été amnistié, Céline, qui est un, par ailleurs, qui comprend très bien le droit, pourquoi est-ce qu'en 57, il serait encore en train de demander l'amnistie?
Et cet article est terrible parce que on voit bien, d'abord vous faites l'histoire des différents pamphlets antisémites, et il est surtout attaqué sur les beaux draps, qui n'est pas le pire. Vous montrez que c'est une sorte de Mein Kampf à la française, vous montrez très bien comment il est entrepreneur de sa propre gloire littéraire, combien au fond c'est une sorte de bureaucrate de la haine antisémite. Au total, Anne Simonin, du point de vue des archives qui nous intéressent, le cas Céline, vous qui avez travaillé sur les éditions de Minuit, sur l'indignité, vous qui avez travaillé entre histoire, droit et littérature, on l'a compris. Qu'est-ce que ça vous inspire au fond? cette question des archives de Céline, qu'on ne voit pas d'ailleurs.
Je sais pas. En tout cas, il y a une sorte de déchirement. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans l'archive, c'est le moment où l'archive déchire les certitudes et fait que vous arrivez toujours. Alors, on appelle ça une hypothèse, on appelle ça des idées préconçues. Et puis, vous êtes déplacé, parce que ça prend du temps et que vous vivez avec un sujet et que je peux être totalement, enfin, véritablement dans la condamnation maximale de Céline. Je peux aussi considérer que il y a des moments pour moi, parce que je relis en même temps les textes littéraires, et c'est vrai que je suis totalement bluffée. Donc j'ai trouvé j'emprunte cette expression à Alexis Slatko, à un livre que j'aime beaucoup sur les rapports entre Céline et Marcel Aimé. Je suis une célinomane, célinophobe. Et je pense que les archives entretiennent ce paradoxe. Et plus je vais, plus les gens qui se pensent détenteurs de vérités absolues et qui pensent pouvoir les imposer, parce que au nom de la vérité, me paraissent des choses fragiles.
Voilà. Donc là, Anne-Simonin, vous voulez nous dire que, au fond, vous allez aux archives, vous trouvez, on va dire, un scoop. C'est un scoop, hein. Céline a été amnistiée, son amnistie est un faux.
Non.
Mais c'est pas ça qui, en tant qu'historienne,
non, c'est surtout pas le scoop.
Vous semble intéressant.
Non, c'est surtout pas le scoop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un dossier qui a été vu par plein de gens avant moi, qui sera vu par plein de gens après moi, et que on me laisse lire d'une certaine façon. Et je vais pas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est le vraisemblable. C'est de dire, vous avez un narratif sur l'amnistie de Céline. Céline s'est moquée de ses juges, et les juges ne savaient pas que Destouches et Céline, c'était la même personne. Ça, c'est la thèse officielle. Moi, je dis, les juges savaient pertinemment que Céline et Destouches, c'était la même personne. Mais à cause de Destouches, ils ont laissé passer l'amnistie de Céline. Et je trouve que la façon d'avoir réassigné Céline à être à nouveau Destouches, à dire voilà, la seule chose qu'il y a de vraiment bien d'un point de vue national, cher monsieur, dans votre comportement, c'est ce que vous avez fait pendant la Première Guerre mondiale. Et vous n'aurez jamais d'amnistie par rapport à ce que vous avez fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui est, alors on vous dira c'est tordu, oui, mais la réalité c'est jamais quelque chose de simple. Et Céline a été, à mon avis, à cause de ce jugement qui l'a pas tué, voilà, puisqu'il était, il est resté, il est mort en 61, Céline a été obligée de recommencer. C'est-à-dire que il a été obligé de se réinventer, et c'est là où, avec une énergie incroyable, il y a le second Céline, où en réalité il ne va pas cesser de déconstruire, reconstruire ce qui lui a été fait à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et ça, c'est juste pour moi quelque chose qui fait que il y a pas de certitude, et il y a à chaque fois un homme au travail et un écrivain qui est emprisonné et qui ne sortira jamais de la prison qu'il s'est lui-même construite d'une certaine façon.
Merci Anne-Simonin. Matière à penser, Anne-Simonin, Diffie Mariani, Manuel Couturier, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Nino Lima, Patrick Boucheron. Demain, je reçois un conservateur, Guillaume Naon. Il dirige les archives départementales et municipales de Paris. Il viendra nous parler de la mise en archive de la dernière catastrophe en date, les attaques terroristes de 2015. Bonne soirée.